Philippe Capel-Dumont, vous êtes théologien, vous êtes philosophe et vous êtes aussi musicien. Et vous nous avez dit, l'interprète en musique n'est pas seulement un imitateur, il habite la musique et même il recrée la musique de façon nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que le théologien, comme l'interprète en musique, ne s'accommode pas de ce qui s'est dit autrefois?
Vous avez parfaitement raison. Les deux grands écueils dans la pratique théologique, c'est de considérer qu'un, que rien n'a été fait, que nous devons tout inventer, ou l'inversement, que tout est fixé de façon anhistorique. Or, précisément, la théologie n'est pas la révélation. La théologie n'est pas l'écriture. La révélation est consignée dans l'écriture. La théologie est chose humaine et elle doit toujours se mettre au niveau de l'inspiration de la révélation. C'est pourquoi il y a la théologie de saint Augustin, ensuite il y a la théologie de Denis, l'Aréopagite, ensuite la théologie de Thomas d'Aquin, qui est l'une des plus magistrales qui nous a été léguée par le christianisme. C'est un monument absolu. Mais pour autant, nous avons, après Thomas d'Aquin, encore des théologies, si je parle que du XXe siècle, celle de Ranner, ou celle de Balthazar, ou celle de Lubac, qui ne sont pas réductibles à ce que Thomas a pu écrire. Autrement dit, la théologie est chose humaine. Alors évidemment, la théologie, dans la mesure où elle est une activité où le mot Dieu intervient, elle a tout intérêt à être théologale. Et ça, c'est un problème lié, spécifique à la théologie, dans la mesure où elle n'est pas simplement une activité purement intellectuelle, elle est une activité spirituelle aussi, dans la mesure où le théologien a tout intérêt à être relié aux motifs qui mettent en ordre son discours. Alors, précisément, de ce point de vue, il y aura toujours des théologies. Il y aura toujours de la théologie. La théologie est à la fois répétitive, on peut dire que la théologie répète d'une certaine manière, mais elle répète en inventant. Et c'est un peu comme la musique. On a toujours des répétitions en musique. C'est-à-dire que quand vous jouez une partition, vous avez sur la partition da capo, ça veut dire de recommencer dès le début. Quand vous répétez, c'est pour dire autre chose, c'est pour faire autre chose. Ou encore, pour prendre un exemple dans la vie chrétienne, la ritualité. Quand vous allez à la messe, apparemment, vous faites toujours la même chose. Mais pourtant, c'est précisément pour ne pas faire la même chose. Et donc, le rite, dans sa répétition incontestable, est au service de la nouveauté, du surgissement de l'esprit. De même que chaque jour, nous disons bonjour, mais nous pouvons donner une densité nouvelle au bonjour, à la ritualité. Donc, le temps de la répétition est au service du temps de la nouveauté, de la création, du surgissement, de l'inaugural.
Le temps de la création nous permet un certain surgissement. Mais est-ce que ce surgissement n'a pas besoin d'un recul, d'une prise de distance, voire même d'une certaine kénose, comme la musique?
C'est une expression que je me suis permis de forger dans une conférence, la kénose musicale.
De quoi s'agit-il?
La kénose, vous savez que c'est un concept qui vient de l'emploi dans l'hymne de saint Paul, où il dit que le Christ s'est évidé, ekénosen, et ça a donné le thème de la kénose dans toute la grande tradition théologique. La kénose signifiant que Dieu laisse la place, s'efface, se retire, s'évide, Dieu laisse la place afin que l'homme prenne place en lui et devienne Dieu, et Dieu se retire, Dieu se vide pour laisser la place à l'homme. Je pense que de façon métaphorique, on peut dire que la musique est parfaitement kénotique, dans la mesure où, si je prends l'exemple du piano ou de l'orgue, quand vous jouez un morceau, ça y est, c'est donné, c'est parti. Et l'affaire est jouée précisément pour remplir, ou parfois pour vider. Vous savez, un moine de Solesmes que je connais me disait autrefois, tu sais, il n'y a que deux sortes de musique, celle qui vide et celle qui remplit. Eh bien, la musique, précisément, se vide elle-même pour remplir. Lorsque l'orgue ou même le chant grégorien, prenons par exemple le chant grégorien ou des chants liturgiques, sont faits pour remplir. Donc la musique est là dans sa parfaite kénose. Elle s'anéantit pour que quelque chose se passe, un événement de remplissement de l'humain et que l'humain devienne un peu plus lui-même. Et donc, il y a un effet assez étonnant. Je dirais presque que c'est une kénose naturelle. Il y a quelque chose qui nous est donné par la musique, dans la création, qui fait signe vers quelque chose qui est divin, proprement divin, que Dieu ne fait rien d'autre lui-même que de se donner, que de mourir à lui-même jusque dans la crucifixion pour se donner et promouvoir la résurrection des corps et la sienne grâce à son Père et celle de l'humanité. Eh bien, la musique donne un signe immédiat, que vous soyez croyant ou pas, donne un signe immédiat qui est de l'ordre du divin.
Vous parlez aussi dans vos écrits sur la musique et la philosophie de la joie. la joie musicale, vous citez Nietzsche, sans musique, la vie, il n'y aurait pas de joie, la vie serait une erreur.
C'est une phrase de Nietzsche, absolument. C'est une phrase très célèbre de Nietzsche. Sans la musique, la vie serait une erreur. Nietzsche voulait dire par là que la musique renvoie aux pulsions du monde, aux impulsions du monde qui passent aussi par le corps. Souvent, on a tendance à penser que la vérité est simplement du côté de l'intellect. La liturgie chrétienne nous rappelle d'ailleurs que c'est faux. La liturgie chrétienne mobilise tous les sens, l'odorat, l'écoute. Et précisément, la musique est ce qui nous fait dire le monde dans sa vérité. Autrement dit, et non pas dans l'erreur. La vérité du monde se dit à travers la musique. Alors, la joie n'est pas simplement, dans ces conditions, une émotion passagère. Dans le genre, j'ai réussi mon diplôme de théologie, de philosophie, je suis joyeux. Bon, c'est une joie passagère, parce que 20 ans après, le pauvre diplôme ne signifie plus grand-chose. La joie n'est pas simplement une expression. Elle est véritablement la chose même. Lorsque vous jouez des pièces, je pense à certaines pièces pour ma part, que ce soit la fameuse, même au piano ou à l'orgue, Jésus que ma joie demeure, que tout le monde connaît, vous êtes dans le ravissement immédiat, surtout si vous connaissez en plus les paroles que Bach y a mises. Pour ma part, lorsque je joue la pathétique de Beethoven, vous avez là un résumé d'intelligence, de foi, de jaillissement, de structure, de finesse, de nuance, qui fait que vous êtes vous-même absorbé par la chose que vous jouez. Avant même que vous la jouiez, elle vient à vous, elle vous sollicite. Et c'est cela qui vous met dans la joie. C'est-à-dire que la joie n'est pas simplement un plaisir que l'on pourrait... Ah, ça me donne du plaisir. Vous savez, aujourd'hui, je trouve que d'ailleurs un peu partout, quand on interroge ou bien des musiciens quelquefois, ou comme des sportifs, ah, mais ça me donne des sensations. Mais il me semble que l'expression est très réductrice. Je ne joue pas de la musique pour avoir des sensations. Je suis d'emblée baigné dans le monde qui me donne au plus profond la joie, qui est au cœur de la création elle-même. Et donc, le piano, c'est la joie. L'organiste, c'est la joie. Alors, le violoniste va protester. Le pianiste a un avantage suprême, c'est qu'il a deux mains. Et l'organiste aussi, ses pieds. Et donc, il est en mesure de faire des accords, d'accorder la musique, de faire des accords majeurs ou mineurs, de mobiliser au moins pour faire un arpège les 8 de ses doigts. Vous pouvez faire un accord parfait. Vous pouvez donc, autrement dit, répondre. Quand vous avez deux mains, mais vous mettez la musique en dialogue, vous faites parler les graves, les aigus, ils se répondent, ils sont en responsabilité les unes par rapport aux autres. Je parle des notes. Autrement dit, le pianiste, comme l'organiste, peut-être plus encore l'organiste au point de vue, a entre ses mains l'harmonie du monde. Le pianiste a un avantage relativement quand même à l'organiste ou au claveciniste, c'est que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le piano a été créé à la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, d'ailleurs par un Florentin qui s'appelait Bartolomeo Cristoforis, qui était un Italien et qui a inventé le premier, ce qu'il appelait le pianoforte. D'ailleurs, à l'origine, le piano s'appelait pianoforte, comme en italien. Pourquoi ? Eh bien, parce que pianoforte voulait dire je peux jouer piano, je peux jouer forte. Autrement dit, le piano introduit l'idée de nuance. Quand vous êtes à l'orgue, que vous appuyez sur la note, vous n'avez pas de nuance. Mais le piano, en revanche, est sensible à votre toucher. Autrement dit, le piano vous permet de produire des touchers différents selon les doigts et selon les mains. Et là, vous avez, autrement dit, l'entrée dans un travail de nuance, dans un travail qui, au fond, est pas très loin du jaillissement infini de la création.
Philippe Capel-Dumont, est-ce que la joie n'obéit pas à la même loi que la kénose?
Oui, on peut le dire, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, si la kénose n'était pas de l'ordre de la joie, il faudrait absolument la supprimer. Dieu est joyeux, hein. Dieu est joyeux, mais d'une joie tenace, d'une joie qui n'épargne pas la souffrance ou l'épreuve. La kénose signifie que précisément, il n'y a rien de plus joyeux que d'avoir donné quelque chose qui va durer. Le musicien où la note est joyeuse parce qu'elle va remplir définitivement quelqu'un. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus intéressant d'entendre quelqu'un vous dire oh, « J'ai entendu il y a quelques années la pathétique de Beethoven ou le prélude numéro 1 de Bach, je l'entends encore. » C'est beaucoup plus fort qu'un enregistrement que vous pouvez avoir dans votre voiture où 3 minutes après vous avez oublié. L'enregistrement n'a pas la puissance de ce que justement implique la kénose musicale qui fait que vous êtes totalement rempli et vous vous en souvenez durablement. Et il y a quelque chose qui appartient donc à la joie même de l'enfantement et la joie de la création.